Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Arpenter, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices et bienvenue sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Il est 20h30, vous écoutez l'émission Zoom Écologie et on est ensemble jusqu'à 21h30. Ce soir, on accueille Valtina et Maurice pour parler du canal Seine-Nord-Europe, ou CSNE de son petit nom pour méga-projet, puisqu'il s'il est construit, ce canal causera 8 fois les dégâts commis par la 69. Alors on va bien sûr prendre le temps de le décrire, assez bien on l'espère pour vous convaincre de rejoindre le week-end de mobilisation qui a lieu à partir de demain à Tourotte, dans l'Oise. On avait déjà parlé du canal Seine-Nord-Europe dans cette même émission en juin dernier, aux côtés des autres luttes de la coalition des soulèvements de la Seine, si ça vous intéresse après cette émission, mais allez écouter l'émission qui est disponible sur zoom-écologie.net. Valtina et Maurice, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Puisque vous êtes là donc pour nous parler de la lutte contre le canal Seine-Nord-Europe, peut-être qu'on peut commencer par bien situer ce projet de canal. D'abord, il relie quoi à quoi ?
Nord-Europe, c'est un projet pour relier les grands ports du nord de l'Europe au bassin parisien. Donc, il commence vers Compiègne, dans l'Oise, et il va pratiquement jusqu'à Cambrai.
D'accord. Et donc c'est la mer, c'est la Manche, si je ne me trompe pas, là-haut ?
Oui, avec la mer du Nord. Et donc, on retrouve les ports, notamment de Rotterdam, hein, pour celui qui intéresse ce projet, et Anvers.
Et on arrive au niveau, c'est la Seine.
Au niveau de l'Oise, qui elle-même se connecte à la Seine.
D'accord.
Et de l'autre côté, en fait, c'est plus précisément, c'est l'Escaut, qui est un canal après qui relie plein d'autres canaux du Nord, parce qu'il y a un réseau de méga canaux déjà présents dans le Nord, qui est très connecté entre toutes les villes du Nord.
D'accord. Et donc, quelle longueur il fait, ce canal ?
Eh ben, il fait 107 km, alors ça semble peu et en même temps c'est immense puisque c'est le plus grand canal d'Europe et là pour ce qui concerne les travaux du canal, ça va être le plus grand chantier qu'ait jamais connu la France.
Ce serait en tout cas le plus grand canal.
Nous allons parler. Faire attention de bien parler au conditionnel pendant toute l'émission, on a bien noté ça. Donc c'est 107 km de long, c'est combien de profondeur ?
On est à plus de 40 mètres de profondeur à certains endroits. Donc ça représente, pour donner une idée, c'est un immeuble de 14 étages qu'on va retrouver en profondeur. Donc ce n'est pas le petit canal touristique du Midi. Ce n'est pas du tout ce vers quoi ça tend.
Mais on va voir après la conséquence de cette profondeur-là. On part de à peu près Compiègne, on va jusqu'à la mer du Nord et les grands ports comme Rotterdam, en traversant 107 km de terres agricoles pour la plupart, c'est ça ?
Le projet du canal, ouais, c'est ça, il se réalise sur un territoire qui est agricole et on est dans les Hauts-de-France, hein, donc c'est une des productions céréalières, mais c'est des terres qui sont très productives. Et là, pour le projet du canal, on estime qu'il y a plus de 3300 hectares de terres agricoles donc, qui seraient utilisées pour la construction du canal.
Donc, c'est vraiment on peut vraiment parler d'un méga projet dans ce cas-là. Mais peut-être qu'on va justement reparler de ce que c'est un canal, parce que je pense qu'on a beaucoup l'idée du canal du Midi, le canal de Lourdes, on est dans les locaux de Radio Fréquence Paris Pluriel, on est vraiment pas loin du canal. Et c'est très joli, c'est très agréable, etc. Mais en fait, c'est quoi un canal ? C'est une structure en béton, en fait.
L'image qu'on prend, c'est qu'un canal, c'est un aquarium en béton. Vous prenez un aquarium, hein, donc avec énormément de béton. Alors bien entendu, c'est un type de béton spécial, hein, avec tout un tas d'additifs, je suppose plus polluants les uns que les autres. Et donc le canal, c'est ça, c'est un aquarium en béton. Sur ce projet-là, on aura même des endroits, enfin, on va avoir le plus grand pont-canal de France. C'est-à-dire, vous imaginez de l'eau qui est en train de circuler sur un pont. Et tout ça, c'était pour préserver, entre guillemets, une zone Natura 2000. Mais on se doute qu'avec les pylônes qui vont servir à soutenir ce pont-canal et puis tout ce que les travaux auront demandé pour mettre en place ce pont-canal, on imagine bien que la nature en dessous, elle n'en sortira pas indemne.
Ouais, ce qui est fou, c'est que creuser et bétonner, ça on sait faire, ça paraît assez simple, mais c'est quand même assez pharaonique si on se dit que c'est sur 107 km. Mais un pont-canal, en fait, il n'y a personne qui sait vraiment faire ça aujourd'hui, et les études d'ingénierie sont pas vraiment très claires encore. Je pense que les ingénieurs eux-mêmes ne savent pas encore très bien comment ils vont le faire, quoi.
Ah oui, d'accord. Donc on est aussi un peu sur l'improvisation encore de la part des...
Sur ce genre de projet, de toute façon, on est beaucoup sur le fait qu'on essaye de mettre les gens devant le fait accompli. Donc on avance le plus vite possible on voit après, quoi.
On est en train de parler un peu de ceux qui construisent ce canal. On va peut-être revenir un peu plus précisément sur qui. Mais pourquoi d'abord on veut construire ce canal ?
Ce canal, il s'inscrit dans un modèle de mondialisation de la production de marchandises. L'objectif, c'est des marchandises de plus en plus nombreuses qui viennent de plus en plus loin. Donc l'objectif, c'est de délocaliser la production qui pourrait y avoir localement, faire produire des objets à l'autre bout de la planète et puis les acheminer en nombre de plus en plus important au fil du temps.
Et inversement, il vient servir aussi le système agro-industriel français, c'est-à-dire qu'il va pouvoir permettre d'exporter des céréales dans les ports du Nord, Rotterdam et Anvers notamment, où il y a des grands silos, et qui permettra de les vendre quand les céréales sont, le prix des céréales est au plus haut. Donc c'est vraiment un système économique qui ne sert pas forcément la population française en elle-même, puisque ces céréales, en fait, on en aurait grandement besoin chez nous.
Comment on acheminerait ces céréales ? Enfin, en fait, c'est quoi ces bateaux qui partiraient, qui traverseraient tout le nord de la France ?
Là, on n'est pas pareil sur de la petite péniche de loisirs, parce que on n'a pas parlé de l'aspect financement, ça va nous permettre d'y arriver. Parce qu'en fait, une des conditions pour que l'Europe finance le projet, c'était que le méga-canal puisse faire circuler des péniches d'un gabarit complètement immense, puisqu'il s'agit de 4400 tonnes. Oh. Et donc, ce sont des péniches qui font plus de 180 mètres de long. Donc là, c'est pareil, on n'est pas sur du bateau de plaisance, parce que... Concernant toujours le gigantisme du projet, on est sur un projet là qui avoisine pratiquement les 10 milliards d'euros d'argent public. Donc c'est un projet exclusivement financé par de l'argent public, que ce soit des fonds européens, des collectivités territoriales, de l'État, mais c'est 100% financé sur de l'argent public. Et on arrive, tout à l'heure on parlait du projet, est-ce qu'il ne serait pas un peu approximatif ? Dans le cadre de l'enquête environnementale, on en parlera un petit peu plus tard, notamment avec le recours juridique, on va voir qu'il y a certaines failles. Mais pour rester toujours dans ce thème du financement du méga-canal, il y a dans ce projet un pont ferroviaire qui n'a pas été pris en compte, et notamment la ville de Noyon verra très prochainement se construire un pont ferroviaire, donc à plusieurs dizaines de millions d'euros, et ça c'est pas pris en compte dans le financement global du canal.
Et si on revient sur les péniches, on peut se dire quand même que les péniches qui circulent actuellement sur le canal du Nord, elles font entre 600 et 800 tonnes. Donc 4400, c'est bien multiplié par 5. À peu près. et que l'objectif, c'est de pouvoir mettre des containers, en fait, sur ces méga péniches. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, les péniches qui circulent sur le canal du Nord et sur les autres canaux de France, difficilement, il faut le dire, parce que les canaux sont mal entretenus par Voie Navigable de France, qui est sous-financée. Bon, ces péniches-là, elles sont conduites par des mariniers qui sont indépendants. Donc leur gagne-pain, c'est le bateau dans lequel ils ont investi, et c'est eux, ils doivent travailler, ils travaillent toute la semaine en général, ils se reposent le dimanche s'ils peuvent. Avec les méga péniches, bah, ça ne sera pas eux en fait qui pourront travailler, ça sera des grands affréteurs qui auront les moyens d'investir dans des grands bateaux et d'affréter des bateaux comme ça, donc des grands industriels comme la CMA-CGM par exemple, qui est une grande entreprise de fret maritime. Voilà.
D'accord, donc c'est beaucoup d'argent public finalement qui va servir à des entreprises privées.
Exactement.
On peut faire un petit, je sais pas si c'est un raccourci, mais je pense, j'ai l'impression
que
c'est
clairement ça.
Oui,
c'est tout à fait ça. Faut se dire que même, en plus, cet argent public, au début, les pouvoirs publics ont voulu le faire payer par des entreprises privées, par un partenariat public-privé. Mais Bouygues et Vinci, qui étaient intéressés par le sujet, s'en sont dédiés parce que se sont rendus compte que ça serait pas rentable pour eux. Donc aujourd'hui, le projet, il doit être financé à 100% par l'argent public, l'Union européenne, l'État français et la région Hauts-de-France, et un peu la région Île-de-France. On est en plus sur des coûts qui explosent, puisqu'au début, on était à 3 milliards, 5 milliards, aujourd'hui 8 milliards officiellement. Mais d'après nos calculs, on serait au moins à 10 milliards. Et on sait que, en plus, comme il y a des ouvrages qui sont oubliés, et même les ports n'ont pas été prévus encore dans ce projet, donc ils devront être faits à part, donc ils ne sont pas financés en tout cas. Les coûts vont probablement encore plus exploser.
Souvent, quand on se retrouve face à un projet comme ça, on se demande, mais d'où est-ce qu'il sort ? C'est quoi l'histoire de ce projet de méga-canal ? Depuis quand est-ce qu'il est en débat ?
Oui, ça fait longtemps qu'il est en débat, au moins 50 ans. En fait, même presque au moment où le canal du Nord a été fait, il y a eu l'idée de faire un plus grand canal. Et c'est un projet que les pouvoirs publics ont régulièrement mis en avant, et puis finalement sont régulièrement revenus en arrière dessus, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des financements nécessaires qui n'étaient pas tenables. C'est aussi pour ça, en fait, la population locale en entend parler depuis longtemps. Et finalement, les travaux commencent aujourd'hui, et ça fait moins de 10 ans que ça se concrétise, globalement, mais depuis 2018, où il y a eu des premières autorisations, si je ne me trompe pas, tu me dis, Valtina, où le projet a commencé à sa voie légale.
Alors, on a fait un petit topo sur ce que c'était que ce canal, sur son histoire, ses financeurs. Et on va parler maintenant de... ça a quoi comme conséquence un canal de 107 km de long, de 40 mètres de profondeur? Qu'est-ce que ça fait au milieu dans lequel c'est construit ?
Ah ben là, c'est parti pour détruire tout un écosystème, parce que déjà, on s'aperçoit qu'il y a eu une étude environnementale, hein, de manière à obtenir une autorisation pour la construction du méga-canal, qui a été complètement bâclée. À tel point, c'est que déjà, dans le cadre de l'étude, il était noté que ça allait impacter l'habitat de plus de 300 espèces protégées. Donc au niveau de la faune, ça va pas être très facile à gérer, hein. Surtout que le système de compensation, en fait, il est fait a posteriori, c'est-à-dire qu'on détruit un bois et puis avec les remblais, on va déplacer la terre, y planter des arbres, et puis ça sera considéré comme étant une compensation. Donc voilà pour ce qui est du côté de l'impact sur l'écosystème. Il y a l'accaparement des terres agricoles, puisque 3200 hectares de terres agricoles, c'est ça en moins qui pourra être utilisé pour nourrir la population localement. Hein. On avait estimé que cette superficie de terres agricoles pourrait faire vivre environ 50 à 60 000 personnes par an. Au minimum, hein, donc si c'était utilisé pour faire de l'agriculture nourricière. Et puis le projet, c'est aussi la disparition de zones humides. Il y a plus de 250 hectares de zones humides qui vont disparaître, même si d'autres sont reconstituées un peu plus loin. En fait, les espèces ne suivent pas. Et puis il y a le grand impact de ce méga canal, hein, parce qu'il concerne l'eau. Et on s'aperçoit que toute cette eau qui va être privée du cycle naturel qu'elle occupait dans la région, finalement on n'est encore pas du tout en mesure d'en imaginer tous les impacts à long terme.
Ouais, il faut venir aussi près de Compiègne, se balader, voir là où le tracé du canal, là où il y a le tracé du futur canal, où il y a déjà beaucoup d'arbres qui ont été coupés, de la terre arasée, pour se rendre compte à quel point la nature environnante est belle. L'Oise et la Vieille Oise aussi qui sont par là, c'est des beaux endroits où il y a plein d'espèces et on va fortement les impacter. On les impacte déjà fortement, comme je vous dis. Par ailleurs, sur les espèces, on peut dire aussi que sur les 300 espèces impactées, ça c'est les études qui ont été financées par la Société du Canal, mais les naturalistes des terres ont travaillé à recenser d'autres espèces qui ont été oubliées par le canal, d'où le recours juridique dont on parlera plus tard. Il y a une trentaine d'espèces qui ont été oubliées, et quand on parle d'espèces, c'est tout type, hein, c'est des oiseaux, des amphibiens, des insectes, des mulettes, qui sont des genres de petites moules. J'ai discuté avec une habitante qui me racontait que la Société du Canal, actuellement, elle déplace des espèces, c'est-à-dire, en fait, il y a des gens qui vont prendre des rainettes et les mettre dans une voiture et les ramener plus loin, comme si c'était comme ça que ça fonctionnait, en fait. On va déplacer les espèces et du coup, on peut faire des travaux là. Par ailleurs, le système des compensations, il est complètement ubuesque, puisque actuellement, pour pouvoir faire passer le canal, on a asséché un bras de l'Oise. Donc il est complètement asséché aujourd'hui. C'est déjà arrivé, parce que c'était un travail préparatoire aux travaux du canal. Donc ça, c'est rien que ça, c'est très triste. Par ailleurs, ils disent que pour compenser le canal, dessus, sur ce bras asséché, ils vont planter des arbres. D'accord. Et en fait, c'est ça leur compensation. Ils ont détruit un milieu naturel magnifique et dessus, ils vont planter des arbres qui vont survivre tant bien que mal, parce que en fait, ils vont probablement mettre des remblais de terre dedans. Donc, c'est de la terre, de la mauvaise terre, quoi, qu'ils vont remettre par-dessus et ils vont planter des arbres dessus et ça sera une compensation. Bon, on s'avance peut-être un peu là sur le sujet, mais... Ouais.
Oui, c'est un système qu'on connaît dans tous les méga-projets comme ça et qui pousse vraiment un peu à se dire que... Bon, bref, je continue sur ça. Peut-être qu'on peut continuer à parler un peu des... Oui, donc il y a la Vieille Oise qui a été rebouchée, c'est ça. Il y a une partie de l'Oise qui va être détournée aussi.
C'est ça, en fait. Ça peut être un moyen d'utiliser les remblais, parce que quand on parle de ce méga canal, hein, ce qu'on n'a peut-être pas dit encore, c'est qu'en termes de remblais, ça représentait 10 fois le tunnel sous la Manche. Donc on va se retrouver avec tout un tas de terres et de remblais à ne plus savoir quoi en faire. Et effectivement, l'objectif, en gros, c'est qu'à un moment, l'Oise, elle serpente. Le territoire, hein, son lit naturel, c'est pas une autoroute, donc c'était pas bien droit. Donc pour se débarrasser d'une partie des remblais et de faire un peu une pierre de coups, donc l'Oise, où l'endroit où ça serpentait, a été rebouché et elle a été mise dans un lit qui est complètement rectiligne et donc qui correspondra aux bateaux qui vont arriver du méga canal, puisqu'il qu'il leur faut aussi des moyens de circuler qui soient adaptés à leur gabarit, hein, qui est juste immense.
On a fait un bien sombre constat jusqu'ici. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après avoir écouté un petit morceau. On se retrouve avec Valtina et Maurice qui viennent nous parler de la lutte contre le méga canal qui s'appelle Canal Seine Nord Europe. On a dressé un peu un portrait de ce canal, ce qui représente en termes de mètres cubes de terre agricole dévastée, d'arbres arrachés et de bouleversement du paysage. Pourtant, les promoteurs du canal, pour eux, c'est un projet complètement écolo. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette dissociation complètement?
Ils mettent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, en tout cas, via les cabinets de communication, pour faire passer ce canal comme quelque chose d'écologique. Comme on le disait tout à l'heure, le canal, c'est quoi? C'est un projet super technique, vraiment qui regroupe beaucoup de technicité, qui prend pas en compte l'environnement et l'évolution de l'environnement avec le changement climatique. Et c'est tout l'inverse d'une approche écologique, parce que la destruction de l'environnement que ça va susciter, ça sera fait de manière irréversible. Là, on a quand même un président de région qui se prend pour un pharaon et qui a envie de laisser une trace de son passage dans la région.
Xavier Bertrand, je donne son nom.
Oui, on peut le donner. Donc Xavier Bertrand qui part sur un projet pharaonique et qui va nous laisser une trace qui est pas du tout écologique, parce que l'argument, c'est de dire plus de fluvial, c'est le fluvial, c'est un transport qui émet le moins de CO2. Hein. Oui, d'accord, mais sauf qu'il y a déjà des canaux existants qui sont laissés à l'abandon. Sur toute la France, par exemple, pour rénover le réseau des canaux existants, donc de permettre à plus de bateaux de pouvoir sillonner et transporter des marchandises, le coût de la rénovation des canaux est estimé à 3 milliards sur toute la France. Et là, on va mettre 10 milliards pour quelque chose de gigantesque, alors que sur toute la France, on aurait pu rénover tous les canaux pour 3 milliards. Il y a le transport ferroviaire aussi, parce que ça c'est un angle moi qui me parle beaucoup et qui résonne beaucoup pour moi. C'est que en 2023, le gouvernement a pris la décision de liquider le fret SNCF sur l'ensemble du territoire français pour 5 milliards d'euros que la SNCF aurait donné à Fret SNCF en nom propre. Donc on se rend bien compte que la motivation du transport écologique, c'est pas ça qui transpire au niveau du gouvernement ni au niveau de la présidence des Hauts-de-France. Et puis c'est mensonger. Je pense que le copain pourra compléter sur le mensonge de le fluvial, c'est un transport écologique, et ce canal en particulier. Parce que le fluvial, oui, c'est écologique, mais pas dans ces dimensions-là.
Oui, le fluvial, c'est écologique, mais je répète parce qu'on a, c'est important de comprendre qu'on a déjà un canal du Nord, en fait. Et ce canal du Nord... Il relie exactement Compiègne à Aubenchais-Laubac et à Lescaut. Et actuellement, le projet du canal Seine-Nord Europe, il est à 50 mètres du canal du Nord. Donc, il est vraiment à côté.
Oui, donc, ça double.
Exactement.
Canal, en fait.
Donc, on aura un canal deux fois plus grand, juste à côté. Ouais. Donc, c'est vraiment... quand on va sur le terrain, on se rend compte de l'absurdité de la chose. Un canal du Nord qui, certes, ne marche pas bien parce qu'il est sous-financé, comme l'a dit Valtina. On pourrait remettre à jour certaines écluses pour permettre aux bateaux d'aller plus vite. Il y a plein de choses à faire. Et un des arguments donnés par la société du canal, c'est qu'il y aura moins de camions sur les routes. Actuellement, si on habite entre Paris et Lille, une des grosses problématiques, c'est l'autoroute A1 qui est souvent bouchée, il y a beaucoup de camions, les gens s'en plaignent, et donc ça parle forcément. On se dit, ah ouais, qu'il y ait moins de camions sur l'A1, c'est vraiment super, quoi. Sauf que, en fait, ils ont sorti des chiffres pour expliquer qu'il y aurait moins de camions dans le futur, qui sont complètement... qui nous paraissent complètement faux, mais même si on regarde leurs chiffres à eux, on se rend compte qu'en fait, la diminution, c'est peanuts. Eux, ils tablent sur le fait qu'aujourd'hui, il y a 89 millions de camions qui circulent dans la région par an. Ils se disent qu'en 2035, il y en aurait 97 millions. Et ils disent, le canal Seine-Nord Europe, ça serait 8 millions de camions en moins. Sauf que, en fait, ça sera... excusez-moi, je me suis perdu dans mes chiffres. Non. Oui, c'est ça. Et finalement, ils disent qu'il y aurait 8 millions de camions en moins, mais on serait qu'à 10% du trafic autoroutier. En fait, ils utilisent le chiffre de 8 millions parce que ça parle vraiment, on se dit 8 millions de camions, c'est beaucoup, mais en fait, c'est à peu près 10% du trafic estimé. Et là, on imagine en fait qu'on serait sur une croissance du transport permanente. Parce que c'est aussi ça qui vient servir le canal, hein, c'est la croissance des flux, de la logistique. Et nous, on récuse ça non seulement parce que d'un côté, même d'un point de vue économique, on n'est pas sûr que ce soit vrai, et que de toute façon, on est contre. On est pour une diminution des flux. Sachant qu'en plus, il faut savoir qu'en fait, c'est pas des flux qui peuvent se transposer de cette manière-là. Les camions, aujourd'hui, ils peuvent transporter un conteneur, mais ils peuvent transporter aussi des colis, des cartons, etc. Alors que un canal, une péniche, transportera plusieurs containers sur une longue distance. Alors que les camions, ils sont utiles parce que ils vont permettre un maillage plus précis du territoire. Donc en fait, ça ne sera pas du tout pratique pour les entreprises de transport d'utiliser le canal du Nord, enfin le canal Seine-Nord Europe, sauf si c'est pour transporter des marchandises à l'étranger. Et ces marchandises, elles pourraient très bien du coup aller sur du fret ferroviaire. Et actuellement, elles vont sur des bateaux, sur des péniches qui vont jusqu'au Havre, et puis sur des grands bateaux. On a déjà aussi la Seine. Il ne faut pas l'oublier. La Seine permet le transport fluvial. Il y a un grand port à Rouen et un grand port au Havre. Rouen, c'est le plus grand port céréalier de France. Si on construit le canal Seine-Nord Europe, il va venir concurrencer ce port. Et il y a peut-être aussi là, je fais une petite digression, un argument potentiel pour les défenseurs du canal, c'est qu'il permet de contourner le port du Havre et les ports français. On sait que les transporteurs, ils sont un peu échaudés par le fait qu'il y a souvent des mouvements sociaux en France et que les dockers, ils n'hésitent pas à bloquer les ports quand ils le veulent, ils l'estiment nécessaire. Or, ça arrive beaucoup moins en Belgique et en Hollande. Le droit social n'est pas le même d'un côté, donc c'est beaucoup plus difficile de bloquer son outil de production, même s'il y a des grèves, bien sûr, et ça arrive souvent là-bas aussi. Ils savent que ça serait potentiellement moins de marchandises bloquées en passant par la Hollande et la Belgique.
Oui, donc on voit bien que c'est un projet un peu symptomatique d'un système économique qu'on peut appeler le capitalisme industriel, extractiviste, très concrètement avec cette extraction de terre, et un capitalisme de flux où l'eau, la terre, les écosystèmes sont transformés en simples ressources pour le profit. Je pense qu'on peut dire ça.
Et c'est un projet aussi qui s'appuie sur une croissance infinie. C'est-à-dire que, comme expliquait Maurice, on s'appuie sur des données d'une augmentation infinie du nombre de camions et de marchandises qui vont circuler. Et on sait très bien qu'on est sur une planète finie et que ce modèle-là, il court à sa perte. Donc en s'appuyant en plus, en se disant que moins il y a de camions, en gros le canal va rapporter de l'argent puisque il va permettre qu'il y ait moins d'externalités négatives dues au transport routier que s'il n'y avait pas le canal. Mais le projet du canal ne fonctionne et ne s'inscrit que dans une augmentation croissante des marchandises et donc de la circulation du nombre de camions. Le canal, c'est pas moins de camions. Le canal, c'est plus de camions, et parmi ces plus de camions, le canal en prend une toute petite partie. C'est vraiment le modèle dans lequel il s'inscrit.
Et j'ajoute une précision aussi, le canal du Nord actuel, il fonctionne actuellement à 30% de sa capacité. Pour les raisons qu'on a données, hein, il est mal entretenu. Aussi, la batellerie, c'est un métier difficile qui n'est pas du tout aidé par l'État. Il faut aussi payer pour être sur le canal, tandis que sur les routes... on a un système qui fonctionne différemment. Ce canal du Nord, même nous, on pense qu'on devrait l'utiliser mieux, plus et mieux, pour transporter certaines marchandises. Et éviter certains camions, mais on ne l'évitera pas. En fait, c'est aussi une décroissance du transport qui va permettre d'améliorer notre qualité de vie, la pollution et d'empêcher les bouchons.
Mais alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place de ce canal pour répondre à ces enjeux écologiques et sociaux dont vous parlez ? Est-ce qu'il y a un contre-projet ? Est-ce que...
je pense qu'une perche a été tendue hein, quand on dit que le canal Seine-Nord Europe sera complètement parallèle à un canal du Nord qui est déjà existant, qui est sous-exploité, qui est sous-utilisé parce que pas assez rénové. bah déjà, rénovons les infrastructures fluviales existantes. Et il y a aussi un autre volet, hein, qui est celui du transport ferroviaire. Actuellement, il y a une volonté de fermer de plus en plus de lignes au motif qu'elles ne sont pas rentables. Toute la région des Hauts-de-France, ça a été une région industrielle depuis des centaines d'années. Et on a toujours transporté des marchandises, et beaucoup par le train et le transport fluvial. Donc il y a matière à rénover les infrastructures existantes, qu'elle soit ferroviaire ou fluviale. Le maillage du territoire le permet et ça ne coûterait pas 10 milliards. Hein. Il faut bien se mettre en tête que 10 milliards, c'est le quart des économies que le précédent gouvernement démissionnaire proposait aux Français de faire. Donc l'État français nous dit on est surendetté, il faut faire 44 milliards d'économies. Eh bien, mettons fin au projet du canal Seine-Nord-Europe. Et là, on a 10 milliards sur la table tout de suite.
Donc on a compris, les alternatives, c'est le canal du Nord, pardon, le ferroviaire et surtout la décroissance économique.
Oui, et si tout à l'heure, je parlais du fait qu'on voit qu'il y a deux canaux qui vont être côte à côte, il faut réaliser que bah, y a une ligne de train aussi qui longe le canal du Nord. Hein.
Ah oui.
ce canal du Nord et cette ligne de train pourraient être complémentaires. Actuellement, c'est peut-être pas pensé comme ça, mais on voit à quel point aussi les décideurs ont pensé ce territoire comme un lieu de passage, en fait, et pas comme un territoire, enfin c'est vraiment, comme on disait, un territoire servant ou qui va permettre d'exporter des choses, mais pas un territoire sur lequel on va essayer de penser un maillage de transport qui va servir les habitants. Voilà, donc en fait, il y aurait tout aussi une infrastructure de transport à repenser en parallèle.
Mais d'ailleurs, les habitants, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce projet ?
Ben, y a différents types de réactions. Il faut se dire qu'on a dit, hein, c'est 107 km, donc c'est très long comme tracé. Donc on part de Compiègne, on arrive à Aubenchalobac à côté de Cambrai. Et entre les deux, il n'y a pas de ville très peuplée. Le canal Seine-Nord-Europe, il passerait sur des terres agricoles, on l'a dit, principalement. Et c'est des grandes exploitations céréalières ou autres qui sont... par là, donc c'est vraiment très vert dans le sens agricole. Donc la population là qui entend parler de ce canal depuis longtemps, elle est plutôt résignée quand même, parce que en fait elle a l'impression que c'est quelque chose qui lui a été imposé. Ils n'ont pas eu leur mot à dire, mais bon, ils n'ont pas envie de perdre de l'énergie là-dessus sur quelque chose qui est déjà décidé d'en haut, parce que en fait il faut se dire que dans les Hauts-de-France on a aussi beaucoup l'habitude qu'on décide les choses pour nous, quoi. Ça c'est de un. Faut se dire aussi que qui dit expropriation dit aussi un remembrement pour les agriculteurs. Donc certains agriculteurs y voient un intérêt, parce qu'en fait ils vont regagner d'autres terres, peut-être permettre de optimiser un peu leur surface, donc ils y gagnent. On a une contestation quand même qui existe à Compiègne depuis quelques années, qui prend doucement. Je ne sais pas si tu veux en dire plus, Valtina.
En fait, moi, par rapport aux habitants, ce que je constate, c'est qu'ils n'imaginaient pas l'ampleur du projet. Depuis le début, le canal Seine-Nord-Europe, ça a été vendu avec des images faites à l'intelligence artificielle, avec des couchers de soleil, avec un canal qui a été reboisé, limite on peut faire du vélo avec ses enfants à côté, etc. Et je pense qu'ils n'imaginaient pas du tout l'ampleur de ce projet-là. Et là, ils commencent à voir arriver les premiers travaux, hein, qui sont les travaux préparatoires. Donc on prépare simplement le terrassement, etc., à ce que les chantiers qui vont servir à ériger le matériel, parce qu'il faut savoir que le canal Seine-Nord-Europe, il va y avoir les écluses, c'est un record, ce sont des écluses qui sont les plus grandes d'Europe. Quand on parle du canal Seine-Nord-Europe, c'est pas le canal du Midi, je répète, il faut s'imaginer un truc un peu comme le canal de Suez ou le canal de Panama. Donc c'est dans des proportions juste gigantesques. Et les habitants Ils ont eu des belles brochures qui leur expliquaient que ça allait être super vertueux et que ça allait créer des lieux de promenade complètement idylliques. Et là, quand ils voient débarquer les engins de chantier, ben, ils déchantent et ils commencent un petit peu à être inquiets.
Et oui, parce que le canal Seine-Nord Europe, c'est pas qu'un couloir d'eau, c'est aussi plein d'autres infrastructures dont on n'a pas encore parlé, comme par exemple la retenue d'haleine, la méga-bassine de l'Alouette. Vous pouvez nous en parler ?
Bah, tout à l'heure, on disait que le méga-canal, c'était un aquarium en béton. Donc on a bien compris aussi du coup que les premiers à aller se servir sur l'argent public, les fameux 10 milliards, ça allait être les marchands de béton. Donc ce canal-là, il n'est pas complètement étanche. Voilà, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Parce qu'il y a une retenue qui va l'alimenter.
Voilà, donc il n'est pas complètement étanche et pas partout. Et du coup, il y a une retenue d'eau qui est prévue pour le réalimenter, notamment en période de sécheresse. Parce qu'on disait aussi tout à l'heure qu'avec le dérèglement climatique, même dans les Hauts-de-France, on avait des périodes de stress hydrique, c'est-à-dire qu'il manquait de l'eau. Et l'eau qui est dans le canal, non seulement il n'est pas étanche, mais elle va s'évaporer aussi. Enfin bon, ils ne pourront pas rendre ce canal complètement étanche, même sur certains endroits, s'il y a cette vraie volonté-là. La méga bassine qui va servir pour retenir l'eau, qui va renflouer celle qui manquerait dans le méga canal. Elle représente 22 fois la méga bassine de Sainte-Soline. Et si on prend toute l'eau, donc celle qui sera utilisée dans le méga canal, celle qui sera utilisée dans les méga bassines, on est à pratiquement 55 fois la méga bassine de Sainte-Soline. Et en gros, ça représente un an de consommation d'eau domestique dans une ville de plus de 600 000 habitants. Donc pareil, on est toujours sur des chiffres qui sortent un petit peu...
Ouais, cette méga-bassine, même qu'on peut appeler giga-bassine du coup d'haleine, en fait, il faut imaginer, c'est quelque chose qui sort de terre. Donc c'est un immeuble de 12 étages, de 600 mètres sur 600 mètres, un carré. Donc c'est énorme. Heureusement, il n'y a pas grand monde qui habite à côté parce que c'est énorme en termes de taille. Il faut bien se dire qu'on, du coup, on va pomper dans l'Oise l'hiver de l'eau qui va servir à alimenter le canal l'été. Et il faut se dire aussi que actuellement on est de plus en plus sujet à des sécheresses dans la région, comme ailleurs, qu'il y a des arrêtés de sécheresse qui arrivent de temps en temps et que du coup on met en risque l'Oise en fait en pompant dans l'Oise, juste pour être certain que le canal Seine-Nord Europe soit à niveau.
Bon, cette image un peu dystopique qui nous attend, puisque donc on a parlé canal, méga bassine, énormes écluses, etc. Faisons une pause musicale.
Oh.
vous êtes de retour sur le Zoom Écologie. Il est 21h16, on a un quart d'heure pour parler encore avec nos invités Valtina et Maurice de Mégacanal Non Merci. Mégacanal Non Merci, c'est quoi ça, c'est la résistance à un méga projet et comment ça s'est organisé?
Ah, Mégacanal Non Merci, ça a commencé, nous étions quelques personnes... Et peu de personnes à avoir entendu parler de ce projet-là. Et les premières personnes qui nous ont alertés sur la démesure du projet et l'aberration de ce projet, ce sont les étudiants de l'UTC de Compiègne. Donc des étudiants orientés dans des parcours plutôt techniques. Donc ils ont tout de suite compris quelle allait être l'ampleur de ce projet.
UTC, pardon, c'est... Université...
Université technique de Compiègne.
De Compiègne, merci.
Pardon. Voilà, merci.
C'est une grande école d'ingénieurs, voilà, il y a 3000 étudiants à Compiègne dans cette école.
D'accord.
Voilà, et c'est eux qui nous ont alertés sur ce projet, et c'est comme ça qu'est né le collectif, hein, des personnes qui étaient intéressées et qui avaient à cœur de défendre le peu d'écologie, d'environnement sympathique qui nous reste dans le secteur. On a vu débouler ce projet-là et voilà, c'est comme ça qu'est né le collectif.
À Compiègne alors plutôt.
Oui, c'est parti de Compiègne.
C'est à Compiègne parce que c'est un peu le début des travaux aussi, c'est là que ça doit débuter.
Ouais.
Faut dire que les étudiants de Compiègne ont organisé ce qu'ils appellent la fête de l'eau en 2023. Qui a été réorganisée en 2025. Donc c'était une manifestation pour alerter sur le projet. Et entre-temps, le Mégacanal Non Merci s'est mis en contact avec les Soulèvements de la Terre et Extinction Rébellion au moment où était en train de se créer un collectif qui se nomme aujourd'hui les Soulèvements de la Seine, où en fait des militants d'Île-de-France et d'autour se sont dit mais en fait il y a un territoire à défendre autour du bassin versant de la Seine. Et quand on parle du bassin versant de la Seine, on va du Havre jusqu'à Reims et du 77 jusqu'à Compiègne justement. En fait on est interconnecté d'un point de vue de l'eau dans ce bassin versant. Et donc plusieurs luttes sont venues s'y accoler, la lutte de la Bassée dans le 77, où aussi il est question de rectifier la Seine pour la rendre droite et à grand gabarit, donc même genre de sujet. La lutte de Green Dock, où il y a la construction d'un giga entrepôt qui doit être construit à Gennevilliers. Et la lutte du triangle de Gonesse, qui est déjà ancienne, mais qui continue aujourd'hui. Mmh. Et finalement, la lutte contre le projet du méga canal Seine Nord Europe.
On voit que tout ça s'est relié par ce thème de la logistique, de transporter toujours plus de marchandises et d'industrialiser l'agriculture.
En fait, on s'en était même pas rendu compte au début. On a agrégé des luttes et on s'est rendu compte en effet que tout ça s'était relié parce que c'était l'objectif de transporter plus de marchandises et de détruire notre écosystème pour transporter plus de marchandises sans réfléchir vraiment à nos besoins réels en tant qu'être humain ni à notre environnement et notre biodiversité. Les soulèvements de la Seine ont organisé une première saison autour de ces quatre luttes. Il y a eu quelques événements, quatre événements avant l'été, et on a décidé de mettre le paquet pour un acte final des soulèvements de la Seine sur le sujet du canal, parce que on a estimé que le projet était débuté à peine et que c'était le moment en fait d'en parler parce que en fait moi-même je connaissais pas ce projet il y a un an et au moment où on a commencé à nous en parler on s'est dit mais c'est pas possible que personne n'en parle en fait, 10 milliards d'euros d'argent public, enfin tout ça on l'a déjà dit et en fait on se rend compte que les pouvoirs publics font tout pour mettre ce projet sous le tapis, ils le financent, ils commencent les travaux et moins on en parle, mieux c'est. Alors on en parle localement, il y a des maisons du canal, etc., mais on n'en parle pas nationalement alors qu'en fait ça devrait être un débat débat budgétaire majeur.
Quoi. C'est quoi une maison du canal ?
Eh ben, c'est la société du canal qui construit des locaux un peu partout sur le tracé pour faire leur pub, où ils expliquent en quoi il va y avoir des emplois, etc. Enfin, des arguments faux, quoi.
Et donc, tu parlais de l'acte final des soulèvements de la Seine de 2025.
Oui.
C'est ce week-end.
Oui.
À Tourotte.
Exactement. Donc, on organise un week-end de vendredi, demain, jusqu'à dimanche, avec un point d'orgue le samedi. À Tourotte, en effet, avec une manifestation qui partira de Tourotte, près de la gare de Tourotte, à 14h. Vous pouvez venir dès midi, il y aura à manger pour tout le monde. Ce sera une manifestation qu'on veut le plus festive possible, mais aussi déterminée. On souhaite, en effet, faire en sorte que ce canal soit visibilisé, donc médiatiquement, mais aussi pour ses habitants, parce qu'on se rend compte à quel point les travaux sont cachés derrière des arbres, derrière des... on les voit pas beaucoup. Donc la manifestation va se diriger depuis Tourotte pour aller voir le canal par tous les moyens possibles et de manière assez déterminée.
Est-ce que dans ce week-end, on va sûrement parler de ce qui se passe peut-être au niveau juridique autour du canal ? Il y a des recours juridiques en cours ?
Oui, donc dimanche, il y aura des tables rondes et des ateliers sur le sujet du canal et plus largement de l'eau. Et on parlera du recours juridique. Je te laisse en parler.
Oui, parce que fin 2024, il nous a semblé important que pour contester ce projet du canal, on puisse avoir une approche juridique. Alors, ça n'a pas été trop dur à trouver l'angle d'approche de ce recours juridique, parce qu'en fait, on conteste l'autorisation environnementale qui a été donnée à la Société du Canal pour mener à terme ce projet. Comme on disait tout à l'heure, les enquêtes environnementales, enfin l'autorisation a été donnée alors que toutes les espèces protégées n'avaient pas été recensées. Donc il nous a semblé vraiment qu'il y avait une précipitation sur le fait qu'il faille vraiment mettre en place le projet de construction du canal et que du coup les autorisations ont été données un petit peu les yeux fermés, notamment sur le coût aussi, sur les investissements, même sur le financement. Il y a des trous dans la raquette puisqu'on s'aperçoit qu'il manquerait pratiquement 3 milliards d'euros pour le canal, sachant qu'on parle toujours d'argent public et qu'il y a aussi un tas de points qui n'ont pas été pris en considération. On parlait tout à l'heure du fait que ce soit un projet qui s'inscrive dans la mondialisation et la délocalisation de la production. Bon, ben, il faut savoir que ces grands bateaux doivent transporter 3 rangées de containers et que sur le trajet que devraient emprunter ces méga péniches, eh bien, il y a des ponts historiques qui existent et qui devraient être relevés si on voulait que les gigabateaux que va amener le méga canal puissent circuler jusque dans le bassin parisien. On a parlé du pont ferroviaire qui n'était pas pris en compte dans le budget travaux, mais il y a aussi tous les ports, puisqu'il est prévu de construire 4 ports le long du tracé du canal, et ces 4 ports là, avec les entrepôts, les routes pour acheminer, l'infrastructure qui va autour, pareil, c'est pas du tout budgétisé dans le projet du canal.
Donc j'imagine que vous allez rentrer en détail dans ces questions de recours juridique, donc dimanche, c'est ça. Le week-end de mobilisation commence demain. C'est quoi le programme demain déjà ?
Demain, c'est vraiment pour que les gens qui arrivent de loin puissent venir dormir sur le camp qu'on est en train de monter. On était dessus aujourd'hui à monter des barnums, des toilettes, etc. Donc ça sera un grand camping, avec une cantine, une friterie, une buvette. Donc voilà, ceux qui peuvent venir dès vendredi soir. Et samedi, ce sera vraiment là, pour le coup, là où on accueillera le plus de monde. On espère un peu de musique le soir. Enfin, on espère, il y en aura, je veux dire. Je ne connais pas le programme précis de la musique, par contre. Surprise. Et ouais, dimanche, comme on l'a dit, l'objectif, c'est aussi que les gens qui n'ont pas envie de venir à une manifestation, à qui ça peut faire peur, et ils puissent aussi venir dimanche de manière beaucoup plus posée. Il y aura aussi des balades naturalistes. On sera à Longueuil-Annel, à côté de la Cité des Bateliers. On organisera des visites de la Cité des Bateliers. C'est un musée, en fait, sur le thème de la batellerie. Mmh. Voilà, donc vous pouvez trouver toutes les informations sur le télégramme Soulèvement Seine. Mais vous cherchez aussi sur Google, vous trouverez des informations sur le Linktree Méga Canal, Méga Scandale ou Méga Canal Non Merci. Mmh. Donc vous êtes bienvenue en tout cas pour venir dormir à Longueuil-Annel dès demain soir et à manifester à Tourotte à partir de 14h après-demain samedi.
Merci pour cette invitation. Je pense que si on veut venir d'un peu loin et qu'on n'a pas de voiture par exemple...
Il y a des trains, mais c'est pas le plus simple. Mmh. Alors, le mieux, c'est de venir en train, si on vient d'Île-de-France, en train et vélo depuis Compiègne, depuis Paris et s'arrêter à Compiègne et puis finir à vélo. Mmh. Sinon, il y a un train qui arrive depuis Compiègne jusqu'à Tourotte à 8h du matin et un autre à 13h15. Mmh. Vous arrivez pile à temps pour la manifestation. Par contre, le train de retour, c'est à 19h.
D'accord. Voilà. Très bien.
Et il y aura aussi du covoiturage, puisqu'il y a un fil télégramme qui est prévu pour le covoiturage. Mais tout ça, vous pouvez retrouver effectivement sur le canal télégramme Soulèvement de la Seine et sur le Linktree aussi de Méga Canal Non Merci.
Eh bien, merci beaucoup. On a toutes les informations. On est paré pour venir alors, Longueuil-Annel, c'est ça ? Ensuite, Tourotte. Et puis, de nouveau, Longueuil-Annel ce week-end. Eh bien, à bon entendeur. On vous attend ce week-end. Merci à vous deux d'avoir été ici, de nous avoir parlé de ce projet.
Merci à toi.
Terrible.
Ouais, un grand merci pour l'écoute.
Et très bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.
Bonne soirée.